Vous écoutez, on lit pour vous.
Gros débat sur les petits bras du tyrannosaure. Un texte de Mathieu Perrault paru le 26 mai 2026 dans la presse. Pourquoi les bras des tyrannosaures sont-ils si petits? La question passionne les paléontologues depuis des décennies. Une nouvelle étude britannique affirme qu'ils ont rapetissé à mesure que grandissait son crâne. Il y a eu une transition de la capture des proies avec les membres supérieurs, l'utilisation de préhensions puissantes avec les mâchoires, concluent les auteurs britanniques de l'étude publiée à la mi-mai 2026 dans la revue Proceeding B de la Société royale. Cette étude ajoute un élément intéressant au débat, mais ne le conclura pas, selon Hans Larsen, paléontologue à l'Université McGill. Ça fait longtemps qu'on étudie l'idée que les bras des tyrannosaures se sont atrophiés parce que d'autres parties de leur corps sont devenues plus grandes, dit M. Larsen. Malheureusement, il y a un problème méthodologique avec l'analyse de la nouvelle étude. Ce problème méthodologique est une autocorrélation. Les auteurs de la nouvelle étude ont comparé, dans plusieurs espèces de tyrannosaures, la taille et la robustesse du crâne avec le rapport entre la taille du crâne et celle des bras. C'est un peu comme si on comparait la taille d'une personne avec le rapport entre la taille de ses jambes et celle de son torse, explique Louis-Philippe Batman, qui vient de terminer sa maîtrise en paléontologie à McGill avec M. Larsen. Ce sont deux variables qui ont peut-être un lien, donc c'est peut-être normal qu'il y ait une corrélation entre les deux. M. Larsen note que les auteurs de l'étude britannique n'ont pas inclus dans leur calcul des espèces de tyrannosaures pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de données. Or, ce sont justement des espèces qui ont des bras relativement grands par rapport aux autres tyrannosaures. Il n'a pas été possible de parler aux auteurs britanniques de la nouvelle étude. M. Batman et Larsen estiment que la théorie selon laquelle les bras des tyrannosaures se sont atrophiés parce qu'ils étaient moins utiles est la plus dominante. L'idée est que durant le développement, l'organisme met plus d'énergie aux caractéristiques qui sont les plus utiles, dit M. Batman. Mais on ne peut pas dire en ce moment que les bras des tyrannosaures se sont atrophiés parce que leur crâne devenait plus grand. C'est peut-être aussi pour favoriser, durant le développement, leur taille généralement de plus en plus grande, ou alors pour d'autres caractéristiques qui ont changé au fil de l'évolution. Les ancêtres du tyrannosaure Rex sont apparus près de 100 millions d'années avant lui et avaient la taille d'un gros chien, dit M. Batman. Plume et termite. Parmi les autres hypothèses pour expliquer pourquoi les tyrannosaures avaient des bras si ridiculement petits par rapport à leur corps et leurs mâchoires si terrifiantes, on retrouve l'idée qu'ils servaient au combat rapproché ou à saisir les proies mortes pour s'en nourrir, qu'ils avaient une utilité dans la cour amoureuse, ou qu'ils sont devenus plus petits pour éviter que d'autres tyrannosaures les mangent accidentellement quand ils se nourrissaient avec des confrères, selon la nouvelle étude britannique. Parmi ces hypothèses, seule la cour nuptiale passe la rampe, selon messieurs Batman et Larsen. Les proies des tyrannosaures pesaient plusieurs tonnes et leurs bras ne pouvaient prendre au maximum que 400 livres chacun, explique monsieur Larsen. Alors je ne pense pas qu'ils aient pu servir lors de combats ou pour se nourrir de proies. Quant à l'idée qu'un tyrannosaure aurait pu manger accidentellement le bras d'un autre lors d'un festin collectif, elle a été lancée il y a une demi-douzaine d'années sans qu'aucun exemple existe parmi les mammifères ou reptiles prédateurs actuels, note M. Larsen. Les crocodiles ne font pas ça, les dragons de Komodo non plus. L'hypothèse que les bras des tyrannosaures ont survécu sous une forme atrophiée, mais encore fonctionnelle parce qu'ils étaient utilisés par les mâles pour séduire les femelles, a été popularisée récemment par un documentaire avec une base scientifique très mince, dit M. Batman. On a retrouvé une espèce de dinosaure avec des bras atrophiés qui avait des plumes à l'humérus, dit-il. Il y a probablement eu d'autres raisons pour lesquelles des dinosaures ont eu des bras atrophiés, selon M. Larsen. Dans certains cas, c'est peut-être pour pouvoir se nourrir de termites, ce qui aurait été plus facile avec des bras plus petits, ou alors parce que certains étaient aussi végétariens. En savoir plus. 160 millions d'années. Âge du plus ancien ancêtre du tyrannosaure. Source, Université de Calgary. 66 millions d'années. Disparition du tyrannosaure lors d'une grande extinction attribuable à un météorite. Source, Université de Calgary. 2,5 milliards. Nombre de tyrannosaures qui ont existé sur la Terre. Source, Science. C'était Gros débat sur les petits bras du tyrannosaure. Un texte de Mathieu Perrault paru le 26 mai 2026 dans la presse.
Nous avons remplacé la fierté par la fermeture. Un texte d'opinion de Katia Gagnon paru le 23 mai 2026 dans la presse. Le Québec et le mouvement souverainiste a reculé sur la délicate question du vivre ensemble avec les immigrants, remplaçant la fierté par la fermeture. C'est le dur constat de nombreuses grandes organisations issues de la société civile québécoise, chambres de commerce, centrales syndicales ou groupes communautaires œuvrant dans des domaines divers, consultés par l'organisme indépendantiste Oui Québec. Depuis janvier 2026, le groupe Oui Québec a tenu une vaste consultation auprès de 50 grandes organisations de la société québécoise. Ces organisations, qui ne sont pas liées à des partis politiques, représentent un très large spectre idéologique. On a tenu des rencontres de près de 90 minutes avec chacun de leurs représentants. La presse a obtenu le rapport émanant de ces consultations. Que sont les Oui Québec? Les organisations Unies pour l'indépendance, Oui Québec, sont une organisation citoyenne non liée au parti politique dont la mission est d'engager la société autour du projet d'indépendance du Québec. Fondé en 2015, l'organisme a depuis tenu nombre d'activités de mobilisation ou de spectacles populaires auprès des jeunes et ouvert un café indépendantiste rue Saint-Hubert. L'entrepreneur Camille Goyette-Gingras, qui dirige actuellement l'organisme, est une ancienne présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois. En 2021, elle a succédé à la syndicaliste Claudette Carbonneau à la tête des Oui Québec. Lors de ces rencontres, vraiment chargées émotionnellement, dont certaines nous ont bouleversées, souligne Camille Goyette-Gingras, présidente des Oui Québec, on a posé deux questions centrales aux sondés. 1. Quel est votre avenir rêvé pour le Québec? Et 2. Quels conseils avez-vous à donner au mouvement souverainiste? Les organisations consultées ne sont pas nommées dans le rapport, soit parce qu'elles tiennent à demeurer apolitiques, soit parce qu'elles craignent que leur financement soit compromis. De leurs réponses, on a tiré 7 constats, dont 3 sont partagés par une forte majorité des répondants. D'abord, 77% des groupes sentent qu'ils n'ont plus de contrôle sur l'avenir du Québec et réclament un grand projet de société, une sorte de révolution tranquille 2.0. Ensuite, 71% des organisations estiment qu'elles n'ont plus de pouvoir sur rien pantoute, se désolent d'un étiolement du tissu social, d'une hausse de la charge bureaucratique à laquelle elles sont astreintes et d'un désengagement de l'État. Enfin, près des 2/3 des groupes, 64%, déplorent l'attitude adoptée par le Québec et aussi par le mouvement souverainiste sur la question du vivre ensemble. Un terme qui désigne de façon implicite le délicat enjeu de l'immigration. Dans le rapport des consultations, on résume cela comme un effritement du vivre ensemble. Il y a une impression que le Québec a reculé en matière de vivre ensemble et que nous avons remplacé la fierté par la fermeture, indique le rapport. des défis persistent entourant le vivre ensemble et il y a des inquiétudes liées à la perception des enjeux identitaires envers le mouvement souverainiste. Ce constat était souvent fait de façon fort émotive, souligne Mme Goyette-Gingras. On sentait la charge émotive par rapport à cette question. C'était des discussions chargées, intimes. De nombreux groupes ont déploré le manque de valorisation de l'apport des néo-Québécois à la société, ajoute-t-elle. Ils sont souvent montrés comme des gens qui prennent, alors que ce sont aussi des gens qui donnent. Des répondants ont aussi rappelé à quel point les Québécois avaient été accueillants avec les Boat People vietnamiens dans les années 1970 et 1980. On a une fierté de ce qu'on a fait à l'époque, on est moins fier de ce qu'on fait en ce moment. Et ce constat ne vient pas que des groupes offrant des services aux immigrants, précise-t-elle. Les groupes qui s'occupent des immigrants ont été très délicats dans leur façon d'aborder la question. Finalement, ce sont d'autres types de groupes qui ont amené cet enjeu-là, presque pour les défendre. Améliorer notre vivre ensemble. Le message lancé par ces organisations s'adresse au gouvernement de la coalition Avenir Québec, mais également au Parti québécois, puisque les défis entourant le vivre ensemble sont l'un des points de vigilance soulevés par le mouvement souverainiste. Vous voulez un projet qui va marquer durablement notre avenir collectif? Il faut quand même s'assurer que ça va améliorer notre vivre ensemble, pas y nuire, résume Camille Goyette-Gingras. Pour voter en faveur de la souveraineté, les répondants veulent comprendre c'est quoi le projet de société qu'on veut bâtir ensemble, ajoute-t-elle. Ils veulent également saisir clairement quels sont les bénéfices du projet d'indépendance. Il faut que ça nous fasse triper un peu. Au cours des dernières années, tant le gouvernement caquiste que le Parti québécois ont souvent critiqué l'afflux d'immigrants sur le sol québécois, soulevant régulièrement ses conséquences négatives en matière d'éducation, de santé ou de logement. L'organisme Oui Québec rendra public son rapport dimanche dans le cadre de son rendez-vous du Oui et compte produire un manifeste qui résumera sa vision du projet indépendantiste. Ce qu'ils ont dit. Voici quelques citations tirées des consultations auprès des 50 organisations. Une organisation économique. Le mouvement souverainiste ne peut qu'additionner et multiplier. Il ne peut pas soustraire ou diviser. Un groupe de la diversité. Allez vous asseoir avec les leaders des mouvements communautaires et les représentants des communautés culturelles pour avoir des discussions de fond. Un groupe économique. Arrêtez de vous battre entre vous. Rêvez à une coalition large. Les luttes intestines sont contre-productives. Un groupe en environnement. On ne peut pas faire de réformes sociales tripantes quand les gens ne se rencontrent pas. Un groupe de recherche. Nous avons une opportunité formidable de répondre aux défis de notre époque. Une chambre de commerce. Il faut réapprendre à avoir de l'ambition. Un groupe en médecine sociale. J'ai besoin d'un projet de société pour me poser la question nationale. C'était « Nous avons remplacé la fierté par la fermeture ». Un texte d'opinion de Katia Gagnon, paru le 23 mai 2026 dans la presse.
L'intelligence artificielle au service des cybercriminels. Un texte de Clémence Pavic, paru le 15 mai 2026 dans Le Devoir. L'intelligence artificielle vous aide au quotidien et dans votre travail? Vous n'êtes pas seul. Les cybercriminels aussi l'utilisent. Leurs escroqueries sont désormais plus ciblées, plus convaincantes et leur portée beaucoup plus grande. Des experts tirent la sonnette d'alarme. Autrefois, il fallait une expertise durement acquise pour devenir un cybercriminel compétent. Aujourd'hui, il suffit d'une connexion Internet et d'une requête soigneusement formulée, lance Ajar Modoud, professeur au département d'informatique et d'ingénierie de l'Université du Québec en Outaouais. Sans détour, cette spécialiste des questions de cybercriminalité et d'intelligence artificielle, IA, indique que les fraudes se sont largement démocratisées depuis l'essor récent de cette technologie. Karim Djerbi, professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal et directeur de l'Union Neurosciences et Intelligence Artificielle du Québec, UNIC, est du même avis. Les avancées en IA abaissent considérablement le seuil d'entrée dans la cybercriminalité, constate-t-il. En quelques clics, un fraudeur peut élaborer une fausse offre d'emploi, se faire passer pour un chasseur de tête et vous convaincre de lui donner vos informations personnelles. Il peut aussi usurper votre voix, appeler un de vos proches et, en prétextant une urgence, lui demander de transférer un montant d'argent. Ou encore, un fraudeur peut créer un commerce en ligne de toutes pièces pour vous pousser à faire un achat dont vous ne verrez jamais la couleur. De la fraude incognito. Les attaques peuvent être hautement personnalisées. L'IA peut exploiter des informations publiques issues des réseaux sociaux ou de profils professionnels pour créer des messages qui semblent authentiques et ciblés, ce qui rend la fraude beaucoup plus crédible, explique Ajar Modoud. Dans un cas d'une ampleur spectaculaire, une entreprise britannique s'est ainsi fait dérober l'équivalent de 35 millions de dollars canadiens. Il y a 2 ans, un employé de la société d'ingénierie Arup a reçu un courriel d'hameçonnage prétendument envoyé par le directeur financier de la société, lui demandant d'autoriser un transfert d'argent. D'abord sceptique, l'employé a fini par participer à une rencontre vidéo avec le directeur financier et plusieurs collègues, durant laquelle ceux-ci l'ont convaincu d'aller de l'avant avec le transfert. Le hic, c'est que personne de son équipe n'a réellement participé à l'échange. Les escrocs ont réussi à berner leurs victimes grâce à des vidéos hyper truquées, deepfakes en anglais, et un système d'ingénierie sociale méticuleusement préparé. D'après une récente étude menée par des chercheurs de l'Université Columbia et de l'Université de Chicago, au moins la moitié des spams seraient désormais générés à l'aide de grands modèles de langage. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont analysé près de 500 000 messages malveillants recueillis avant et après le lancement de ChatGPT. Selon Karim Djerbi, l'IA ne crée pas nécessairement de nouvelles formes de fraude, mais elle rend surtout les méthodes existantes plus crédibles, plus rapides et beaucoup plus faciles à déployer à grande échelle. Quand le pilote automatique dérape, pour Ajar Modoud, nous entrons dans une nouvelle ère des cyberattaques. Selon elle, la plus récente menace en matière de cybercriminalité concerne l'IA agentique, qui désigne les systèmes d'IA autonomes. Élise Manaille, professeure en cybersécurité à l'Université du Québec à Chicoutimi, abonde dans le même sens. Un agent d'IA est capable d'entreprendre des actions par lui-même, explique M. Manaille. Imaginez un assistant d'intelligence artificielle qui aurait le contrôle de votre appareil et qui pourrait réaliser des tâches de routine à votre place. Un des risques, c'est que l'agent IA pourrait, par exemple, sans aucune malice, ouvrir un fichier en pièces jointes dans un courriel spam et accepter un virus par erreur, illustre M. Manaille. Dans d'autres cas, l'IA agentique pourrait carrément être utilisée par les malfaiteurs afin de piloter des attaques automatisées, selon les experts sondés. Concrètement, on peut déjà envisager des scénarios où un agent d'IA identifie automatiquement des employés sur LinkedIn, leur envoie des messages d'hameçonnage sur mesure, relance ceux qui hésitent, adapte son ton en fonction des réactions, puis tente d'obtenir des accès ou de déclencher des transferts frauduleux, évoque Karim Djerbi. Retourner l'arme contre les fraudeurs. Anthropic, la maison mère de Claude, a annoncé dans les dernières semaines la sortie de son nouvel outil, Mythos, capable de détecter n'importe quelle faille de sécurité afin d'y remédier. Toutefois, de crainte que l'outil ne tombe entre les mains de malfaiteurs, qu'il exploiterait à mauvais escient, Anthropic a décidé d'en limiter l'accès à une poignée de grandes entreprises. Dans les derniers jours, OpenAI, propriétaire de ChatGPT et grande rivale d'Anthropic, a à son tour dévoilé un dispositif taillé pour la cybersécurité intitulé Daybreak. Pour Élise Manaille, il est impératif de s'adapter à la menace grandissante. Si les pirates sont 100 fois plus rapides et 100 fois plus efficaces, les équipes de défense en cybersécurité n'ont pas le choix de s'adapter elles aussi. Donc, nous aussi, on doit utiliser l'IA pour analyser les vulnérabilités et contrer les fraudes, plaide l'expert. C'était l'intelligence artificielle au service des cybercriminels, un texte de Clémence Pavic, paru le 15 mai 2026 dans Le Devoir.
L'aide médicale à mourir et l'insurmontable consensus, un éditorial de Marie Vastel, publié dans Le Devoir du 6 mai 2026. Les années s'écoulent, les réflexions se suivent, mais le consensus social d'acceptabilité ayant entouré les avancées successives encadrant l'aide médicale à mourir n'émerge toujours pas pour les personnes atteintes d'un trouble mental qui souhaiteraient, sur la base de ce seul grave et délicat critère, avoir accès elles aussi à cette fin de vie. Et le temps qui passe n'y change à peu près rien. Psychiatres, citoyens et provinces canadiennes demeurent tout aussi partagés. Des divergences qui, tant qu'elles perdureront, poseront un infranchissable frein au cheminement de ce débat de société qui ne peut se poursuivre que dans l'assentiment social. Nulle discussion n'est plus épineuse que celle-ci. Au paternalisme médical dénoncé par certains, s'oppose une autonomie médicale réclamée par d'autres, mais sur laquelle les avis d'experts en psychiatrie demeurent divergents. À toute la délicatesse entourant un tel choix de fin de vie, se greffe l'inouïe complexité des troubles mentaux. Or, pour plusieurs, les mémoires et les témoignages présentés au comité mixte de sénateurs et de députés qui s'est penché sur cette suite possible à l'accès à l'aide médicale à mourir, prévue pour mars 2027, aurait somme toute pu se résumer à du copier-coller des représentations faites devant le même comité il y a 3 ans. Le rapport final, attendu d'ici cet été, au terme de 2 mois d'audience ayant pris fin mardi, risque fort bien de se solder à son tour par la même recommandation, soit celle d'un report, un autre, de ce débat manifestement enlisé. Précipiter ou faire avorter toute autre décision, faute de consensus dans un sens comme dans l'autre, serait impensable pour une question aussi cruciale. Fixer un nouveau délai sans corriger les failles que représente le manque criant de services en santé mentale, invoqué depuis des années et encore à ce jour pour expliquer les craintes persistantes de certains, serait toutefois impardonnable. D'une part, une quinzaine de directeurs de départements de psychiatrie d'université des 4 coins du Canada réitèrent en leur nom personnel, de même qu'en écho aux préoccupations brandies par d'autres collègues du domaine, qu'il n'existe aucune définition unanimement reconnue du « caractère irrémédiable » entre guillemets du trouble mental dont un patient ne pourrait espérer se remettre, ni de critères universels permettant de distinguer des pensées suicidaires d'un souhait éclairé de se prévaloir de l'aide médicale à mourir. À l'inverse, des psychiatres comme la Dr Mona Gupta, également professeure titulaire à l'Université de Montréal, rétoquent de nouveau que ces incertitudes en matière de diagnostic ou de prévisibilité clinique ne sont pas propres aux troubles psychiques et concerne aussi les affections physiques. Qui plus est, les personnes souffrant d'un mal physique et se prévalant de l'aide médicale à mourir ne sont pas exemptes de troubles mentaux ou de pensées suicidaires, une telle évaluation médicale faisant ainsi, guillemets, déjà partie de la pratique de l'AMM. Fin des guillemets. La raison invoquée pour réclamer qu'on reporte indéfiniment un tel élargissement de l'aide médicale à mourir, d'un côté, ou qu'on aille enfin de l'avant, de l'autre, non, aucunement, ou à peine évolué. L'opinion populaire n'a pas non plus fluctué. 80% des Canadiens et 85% des Québécois seraient à l'aise de voir l'admissibilité de l'aide médicale à mourir élargie aux troubles mentaux comme seule affection, selon un sondage commandé par le lobby Mourir dans la Dignité Canada. Mais, encore là, seulement en vertu de balises strictes, qu'il s'agisse d'une maladie grave, résistante au traitement, causant des souffrances persistantes et intolérables. Le Québec et l'Alberta, en revanche, ont adopté ou proposé une loi excluant explicitement cette option. En marge de tous ces débats législatifs, des personnes cloîtrées dans leurs souffrances psychiques ne savent pas où se tourner, dans l'attente interminable de compassion de la part de leur gouvernement et de la société. Que le Québec demeure un chef de file de l'aide médicale à mourir dans le monde pour les personnes souffrant de maladies physiques incurables, avec un taux de 7,9% des décès en 2024-2025, et qu'il soit suivi de près par le reste du Canada, 5% des décès la même année, incite cependant à mûre réflexion. Le vieillissement démographique y est certes pour quelque chose, tout comme l'indifférence religieuse d'une part importante de la population, ainsi que le libre accès dans le système public à cet ultime soin thérapeutique. La décision réfléchie du Québec et du Canada d'offrir ce choix de fin de vie fut toutefois prise d'un commun accord jusqu'ici. Étendre à nouveau l'AMM ne peut se faire de manière précipitée en l'absence d'un indispensable consensus. Un énième report de son élargissement ne pourra en revanche s'opérer sans qu'on y adjoigne cette fois-ci un échéancier prescrivant l'étude de mesures concrètes destinées à répondre aux craintes perpétuellement évoquées ou de balises possibles à apporter dans le cas délicat d'affections psychiques, et ce, afin d'éviter de simplement perpétuer, pour ceux qui en souffrent, cette valse hésitation de compassion. Fin de cet éditorial de Marie Vastel titré « L'aide médicale à mourir et l'insurmontable consensus » publié dans Le Devoir du 6 mai 2026.